Turning today to the second letter of John and the first verse.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la deuxième épître de Jean et au verset 1. 2 Jean, verset 1. L'ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais encore tous ceux qui ont connu la vérité. Et notre sujet ce matin est simplement garder la vérité. Nous avons fini nos études sur la première épître de Jean et nous en arrivons à cette deuxième épître. Jean l'Ancien, ou l'homme âgé, il écrit très probablement entre 90 et 95 après Jésus-Christ et il écrit à quelqu'un qu'il décrit comme étant la dame élue. Ce terme grec pour dame est un nom, kuria. Mais je pense qu'il est probable que les traducteurs, dans la plupart des versions, ont raison et la décrivent comme étant la dame élue. L'ancien à la dame élue et à ses enfants. Des enfants adultes déjà probablement. Et l'apôtre Jean a rencontré certains de ses enfants alors qu'il le dit plus tard. Que j'aime dans la vérité, dans la vérité. Il l'aime comme étant une chrétienne. Probablement, elle était une dame qui a accueilli beaucoup de gens, comme l'apôtre Jean, par exemple, qui visitait, et d'autres prédicateurs qui visitaient. Probablement, une dame qui avait peu de moyens, ou peut-être qu'il y avait une église de maison qui se rassemblait dans sa maison, qui se rassemblait dans le passé dans sa maison. Nous ne savons pas, la dame élue et ses enfants, que j'aime dans la vérité, et non pas moi seule. Et à nouveau, ceci suggère qu'il y avait beaucoup de gens, de prédicateurs itinérants, qui l'appréciaient et qui ont été reçus par elle. Elle a pris soin de ses pasteurs quand ils ont visité cet endroit en particulier, et l'aimait en tant que chrétienne qui allait faire toutes choses pour le Seigneur et pour la vérité et pour répandre l'évangile et pour mettre l'évangile en avant. C'est là l'apôtre Jean, l'ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité et non pas moi seul mais encore tous ceux qui ont connu la vérité. Elle était bien connue dans cette localité, dans l'église, près de là où elle habitait. Et ceci est une leçon pour nous d'aimer les gens dans la vérité, en tant que chrétiens croyants consacrés, ceux qui mettent en avant la vérité, ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour le Seigneur, pour la vérité. Vous aimez ces gens dans la vérité. Vous êtes un dans cette œuvre. L'apôtre Jean rajoute au verset 2 « à cause de la vérité ». Pour l'amour de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Elle défendait l'évangile et la lumière de l'évangile et il y avait un lien particulier qui était établi là. Bien sûr, il y a un indice ici de la doctrine, de la persévérance des saints dans ce verset 2 et qui sera avec nous pour l'éternité. Mais nous n'allons pas développer ce point ce matin. Et j'aimerais en arriver au verset 4. Mais en passant le verset 3, la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. La faveur de Dieu, c'est la grâce, la miséricorde, ceci parle en soi. Et la paix, cette unité, cette réconciliation avec Dieu, de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Vous pouvez imaginer pourquoi ceci est souligné sous l'inspiration de Dieu. Parce que l'apôtre Jean allait dire plus par rapport à la divinité de Christ dans cette lettre, dans la vérité et l'amour. Et en arrivant au verset 4, et je vais vous donner un premier point qui sera « marcher dans la vérité ». J'ai été fort réjoui de trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité. Où est-ce qu'il les a trouvés, ces enfants? Probablement Jean écrivait d'Éphèse à ce moment-là, où il a passé ses dernières années. Peut-être que certains de ses enfants, de cette dame élue, vivaient à Éphèse, ou peut-être qu'il les a rencontrés alors qu'ils voyageaient d'église en église, et peut-être qu'ils étaient dans ces églises qu'ils visitaient et qu'ils faisaient des choses pour le Seigneur, qu'ils œuvraient pour le Seigneur. J'ai été fort réjoui de trouver plusieurs de tes enfants. Ceci ne veut pas dire que seulement certains de ces enfants étaient convertis. Probablement tous l'étaient, mais peut-être que Jean n'a rencontré que certains d'entre eux. J'ai été fort réjoui de trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité. La vérité, marcher dans la vérité. Ceci sera répété dans cette épître. Et non seulement dans cette épître, mais également dans 3 Jean. Deux fois cette expression que Jean utilise dans sa première épître, marcher dans la vérité. Ce sont là des paroles extraordinaires. De trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité. Quand j'étais un chrétien très jeune, oh, ceci fait bien des années, peut-être en 1959, quand j'étais un chrétien très jeune, j'ai été à une conférence, je ne pouvais pas vous parler de cette conférence, mais quelqu'un m'a pris dans sa voiture, et il y avait beaucoup de gens dans cette voiture, on était bien serrés, il y avait des étudiants principalement, et sur le chemin, c'était un long chemin pour aller jusqu'à cette conférence. La conversation m'a ouvert les yeux en tant que jeune chrétien. Tous les autres, dans cette voiture, parlaient de ce qu'ils allaient faire dans leur vie, leur travail, leur carrière, etc., leurs études. Et toutes les conversations étaient comment ils allaient trouver la volonté du Seigneur, quel travail leur permettrait de témoigner pour le Seigneur, etc. C'était quelque chose de très bon et très sain et un défi pour moi. Et après la conférence sur le chemin du retour, j'étais dans une autre voiture d'étudiants et la conversation était bien différente. Ils étaient tous croyants comme les autres, ils se disaient croyants, mais c'était plus « Oh, dans quel travail est-ce que je pourrais gagner le plus d'argent ? Qu'est-ce que j'aimerais et mes ambitions ? Est-ce que ceci me donnera dans la vie ce que je pourrais obtenir ?» Et en tant que jeune croyant, je me suis dit « Oh, ils se disent tous chrétiens !» Mais les conversations sont très différentes entre ces deux groupes. Et je pense à ceci quand je lis ces paroles. « J'ai trouvé tes enfants qui marchent dans la vérité. » Vous pouvez professer la vérité, mais marcher dans la vérité, c'est différent. Vivre dans la vérité, c'est différent, chers amis. Ceci parle de la vie. Toute votre vie, votre marche dans notre vie, ou que ceci soit un défi pour nous, ou je suis sûre que vous marchez dans la vérité, mais ceci est profond, il y a beaucoup d'aspects en cela, et de temps en temps nous devons examiner nos cœurs, ceci parle de toute notre vie. Est-ce qu'elle est dédiée, consacrée à la vérité? Qu'en est-il de mes ambitions? Est-ce que mes ambitions sont pour la vérité? Qu'est-ce que je peux faire pour Christ, pour la vérité? Et qu'en est-il de mes priorités? Ce qui prend tout mon temps, mon énergie, mon enthousiasme, est-ce que ceci est dans ma carrière ou à la maison ou dans d'autres choses qui sont immensément importantes dans ma vie? Mais nous devons bien sûr prendre soin de nos familles. Mais quelles sont nos priorités? Est-ce que nous marchons dans la vérité ou est-ce que c'est entièrement secondaire? Quels sont nos plaisirs, les choses que nous aimons? Est-ce que ces choses sont liées à la vérité, adorer le Seigneur et parler de la parole et gagner les gens à Christ? Ou est-ce que nos priorités, nos plaisirs sont simplement des plaisirs terrestres qui dominent? Qu'est-ce que c'est que marcher dans la vérité? Bien sûr, garder l'Évangile en vie, la lumière de l'Évangile, ceci est si important pour nous, si essentiel. L'Évangile, les gens qui vivent pour l'Évangile. Il y a certaines églises, malheureusement beaucoup, dans lesquelles les gens croient à l'Évangile, mais il semble que personne ne vive pour l'Évangile, ou prêche l'Évangile, ou répand l'Évangile, ou visite la communauté autour de l'église, ou à une école du dimanche pour parler de l'Évangile aux enfants. Est-ce que la lumière de l'Évangile est une grande priorité? Ceci est essentiel pour marcher dans la vérité. L'autorité de l'Écriture également, est-ce qu'elle domine dans notre vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ceci et cela? Comment est-ce que je dois vivre? Est-ce qu'elle a autorité pour moi dans ma vie? Est-ce que j'obéis réellement à la parole de Dieu? Est-ce que je marche dans la vérité? Ou est-ce que c'est en passant de temps en temps les commandements de Dieu, la sainteté? Si nous étions dans certaines églises, nous réciterions les commandements dans chaque culte. Nous ne faisons pas ceci en tant qu'église indépendante. Mais ça ne veut pas dire que nous mettons les commandements de côté. Non, il y a certaines personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne savent pas même, qui ne connaissent même pas les commandements par cœur. Mais ce n'est pas vraiment une bonne chose que de réciter les commandements, parce que ceci a un effet plutôt négatif. Les gens pensent que c'est simplement des choses qui sont interdites et ne réalisent pas que chaque commandement met en avant le péché principal de toute une catégorie de péchés. Ainsi, quand les gens disent « tu ne tueras point », ils pensent simplement au meurtre. Ils ne pensent pas à haïr leurs voisins et à haïr d'autres personnes, à faire du mal. Et ceci fait partie de la même catégorie de péchés. Et en revenant à ce verset, l'obéissance au commandement de Dieu et ce souci pour la sainteté, c'est là marcher dans la vérité en gardant ces choses devant nous, également la méditation personnelle et la prière devant Dieu jour après jour. Ne laissez jamais ces choses de côté, chers amis, il y a tant de choses pour lesquelles nous devons prier. Et ceci s'est passé que quelqu'un vienne me voir, qu'il me dise « Oh, j'ai des difficultés à prier, je commence et je ne sais pas pourquoi prier ». Nous ne savons pas pourquoi prier. Nous avons besoin d'une liste à la fin de notre Bible et toute notre responsabilité dans la prière. Nous devons louer le Seigneur, le remercier comme nous le faisons publiquement pour ses bénédictions spirituelles, temporaires. Et nous devons amener nos besoins devant lui. Également, nous devons vivre pour lui. Nous devons nous consacrer à lui, nous repentir. Et nous avons tant de gens pour lesquels nous voulons intercéder également. Et des amis et des événements qui demande notre attention dans la prière. Il y a tant de choses pour lesquelles nous devons prier. Si vous écrivez sur un bout de papier ces différents points, alors vous n'aurez pas le temps de prier pour toutes ces choses, tellement il y a de choses pour lesquelles nous devons prier. Priez chaque jour, chers amis. Nous nous reconsacrons au Seigneur jour après jour et nous lisons l'Écriture, non pas simplement de manière technique ou théorique. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce qu'il y a comme doctrine ici? Est-ce que ce texte me reprend? Est-ce que ce texte m'encourage? Est-ce que je vois Christ dans ce passage? Je veux comprendre le passage que je lis, je veux comprendre également son message potentiellement pour moi chaque jour. Et ceci, c'est marcher dans la vérité. C'est là ce que cela signifie, la fidélité. C'est là marcher dans la vérité et le témoignage pour Christ. Dans chaque occasion, et également l'offrande, ceci c'est marcher dans la vérité. Et nous devons examiner ces choses et méditer sur ces choses. Et le ciel, notre destinée céleste, c'est là marcher dans la vérité. Aussi souvent que possible, nous devons penser à notre appel céleste, notre vocation. Et ainsi, nous sommes moins en souci par rapport aux choses qui peuvent aller de travers sur cette terre, parce que nous avons la vie éternelle et nous nous préparons pour ce grand jour qui vient, le jour du Seigneur. Ce sont là des paroles extraordinaires et merveilleuses pour chacun d'entre nous, un texte clé pour chacun d'entre nous. J'ai été fort réjoui de trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité. C'est là un défi, un encouragement pour nous, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Les gens demandent « Qu'est-ce que c'est que le commandement de marcher dans la vérité ?» Oh, plusieurs fois dans l'Écriture, nous voyons ce commandement. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous avez un commandement en particulier qui est répété plus de 6 fois dans Deutéronome uniquement. Vous marcherez dans le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé. Bien sûr, sans le salut, vous ne pouvez pas faire cela, mais si vous êtes sauvé avec une nouvelle nature et le Saint-Esprit en vous, avec l'aide de Dieu, vous pouvez obéir à ce commandement. « Enseigne-moi tes voies, Seigneur, dit le psalmiste, et je marcherai dans ta vérité. » Le psaume 86, et Jean dit ici, selon le commandement que nous avons reçu du Père de marcher dans la vérité. L'amour mutuel est mentionné ensuite au verset 5. Et ceci est très important. L'amour entre les chrétiens. Et maintenant, dame élue, je te prie. Non comme si je t'écrivais un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Quel est le problème ici? Est-ce que cette dame manque d'amour dans un certain sens? Ou est-ce que elle n'aimait pas les autres chrétiens? Pourquoi est-ce que ce commandement vient soudainement pour cette dame élue dans ce verset et particulièrement souligné ici? Je te prie, dame élue, que nous nous aimions les uns les autres. Ceci semble être l'apôtre Jean qui la reprend. Certains pensent ceci, mais ce n'est pas nécessaire. Ou peut-être que Jean soulignerait uniquement l'importance de cela. C'est une lettre inspirée, peut-être que Jean ne le sait pas, mais cette lettre sera préservée durant toute l'histoire. Et ainsi, ceci doit être exprimé d'une manière forte, souligné. C'est pour tout le monde, pas simplement pour cette dame qui peut-être n'a rien fait de mal. Peut-être qu'elle doit être reprise un tout petit peu, cet amour mutuel. Dans la première lettre de Jean, nous remarquons que dans ces trois occasions, dans cette lettre, où l'apôtre Jean exhorte à l'amour mutuel entre les chrétiens, l'amour fraternel, il ne se répète pas simplement. Si vous considérez chaque occurrence clairement et avec attention, il y a quelque chose de différent par rapport à l'amour fraternel qu'il dit chaque fois. Et de même ici, si vous comparez 1 Jean et 2 Jean, vous diriez que c'est la quatrième fois qu'il parle de ce sujet, l'amour fraternel. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ici? Oui. Et l'élément nouveau dans cette lettre, cette fois-ci, c'est l'élément de cet amour qui est protégé, qui est gardé. Il y a toujours quelque chose de différent qui est rajouté avec Jean. Il ne se répète pas simplement que nous nous aimions les uns les autres. Et quand nous en arrivons au verset 7, nous allons comprendre. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Oh oui, cette exhortation à l'amour fraternel est donnée dans ce contexte-là. Car, parce que plusieurs séducteurs sont entrés. Ainsi, vous avez besoin de l'amour fraternel. Ceci est répété pour la quatrième fois, si on compte 1 Jean et 2 Jean. Parce que ceci nous protège. Ceci est une puissance qui nous garde et qui met de côté les fausses doctrines et la séduction. Ce verset 5 va avec le verset 7. Et si vous échouez en cela, alors vous ne comprenez pas le verset 7. Vous ne comprenez pas pourquoi il commence avec le terme « car ». Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Et certains commentateurs sont surpris par ce terme « car ». Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ceci n'a pas de sens. Ceci n'est pas lié avec ce que Jean dit juste avant. Ceci ne suit pas. Ainsi, ils disent que Jean veut lier le verset 7 et le verset 8. Mais dans le grec et en anglais également, ceci n'a pas de sens. Car plusieurs séducteurs, ceci est lié au verset 5. Nous devrions nous aimer les uns les autres, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Et nous en arrivons à ceci dans un moment. L'amour fraternel, ici au verset 5. L'amour, c'est l'appréciation, l'affection l'un pour l'autre. Mais également, ceci inclut de veiller l'un sur l'autre, de veiller sur la vérité. Ceci est évident. Si vous aimez vos enfants, vous les protégez. La plupart de vos soucis en tant que parents viennent de ceci. Vous essayez de protéger vos enfants dans une certaine mesure. Peut-être qu'ils sont dans une mauvaise compagnie, ils ont de mauvais amis ou ils sont influencés par des mauvaises choses ou par des mauvaises personnes. Et on se dit, comment est-ce que je peux les aider en cela? Pour les protéger, l'amour protège. Mais parfois, parmi les enfants de Dieu, cet élément est mis de côté, est omis. Et les gens ne pensent pas réellement à la protection. Et vous pouvez voir ceci dans l'histoire de l'Église. À partir des années 1880, le mouvement de critique des Écritures est entré. D'abord dans les universités, cette approche critique qui disait que l'Écriture n'est pas inspirée, vous pouvez décider vous-même de ce qui est divin, de ce qui n'est pas divin dans la parole de Dieu, et vous pouvez débattre sur ce texte ou celui-ci, vous pouvez faire toutes sortes de théories et monter toutes sortes de théories. Certaines proposent que différents auteurs ont écrit ce livre et cet autre livre, et ces choses sont des compositions humaines, et ce genre de critique est entré et a commencé à détruire les églises. Et ceci a mis en avant une nouvelle forme de libéralisme qui disait que l'Écriture n'est pas entièrement inspirée. Et il y a des dénominations dans lesquelles ils disent de nos jours que l'Écriture contient la parole de Dieu. Ils ne disent plus que les Écritures sont la parole de Dieu. Ainsi, nous pouvons choisir ici et là les doctrines et les passages qui sont inspirés. Cet élément de protection dans l'amour semble disparaître de la prédication et de beaucoup d'églises, et les anciens et les diacres ne sont plus en souci de protéger les gens et les églises et les chrétiens. Et les conversations dans les dénominations se disent « Oh, cette personne a des diplômes, alors c'est une bonne personne que nous pouvons avoir comme pasteur, mais il ne croit pas dans l'autorité de la parole de Dieu. » Et ainsi l'erreur est entrée et les gens n'ont pas été protégés. Et il y a, par exemple, la dénomination baptiste de laquelle nous sommes séparés. Et depuis les années 1880, le mouvement baptiste est allé à sa destruction. Probablement que dans le mouvement baptiste, seulement 5% de ces églises baptistes sont encore fidèles à la parole de Dieu. Et les églises qui sont encore fidèles à la parole sont pour la plupart devenues indépendantes du mouvement baptiste. Comment est-ce que ceci s'est passé? En une centaine d'années, toutes ces dénominations sont tombées dans l'incrédulité. Ce manque d'amour, non pas simplement l'amour pour la vérité, mais cet amour qui protège le peuple de Dieu, de défendre la foi dans la prédication, les églises qui défendent la foi. Je me souviens, en tant que jeune, dans l'église dans laquelle j'ai été sauvée, les diacres parlaient de notre bien-aimée dénomination, alors que elle était pourrie à 95% dans l'incrédulité. Mais les gens n'ont pas été avertis, protégés. L'amour protège. Et c'est là le grand thème de cette deuxième épître de Jean. Mais il l'introduit ici dans ce thème au verset 6. Et c'est ici l'amour que nous marchons selon ses commandements. La sainteté, les commandements de Dieu, c'est là le fondement du vrai amour. C'est là le commandement comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Je vais continuer directement avec le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur et l'antichrist. Et mon deuxième point sera les dangers de séduction. Beaucoup de séducteurs sont entrés dans le monde. Les termes utilisés sont intéressants. Ce terme « plusieurs » ou « de nombreux », Satan ne fait pas les choses à moitié. Quand il envoie des faux enseignants, des faux prophètes dans le monde, il n'envoie pas un ou deux. Il envoie des dizaines de milliers de personnes. Nous apprenons ceci dans 1 Jean, que beaucoup d'entre eux ont commencé dans les églises et ils ont essayé de corrompre l'église de l'intérieur. Et ensuite, ils sont sortis des églises dans le monde et ils ont attaqué de l'extérieur. Au début même de l'église, il y avait le mouvement judaïsant. Les gens qui disaient être chrétiens, mais ils n'étaient pas réellement sauvés, ils disaient aux gens que « Oh, vous ne pouvez pas simplement être sauvés par Christ, ceci ne suffit pas, vous devez obéir à la loi cérémonielle également, vous devez être circoncis, vous devez être juif également. » Et ils prêchaient ceci aux églises non-juives également. Et ils suivaient l'apôtre Paul et les autres évangélistes pour propager cette hérésie. Et quand les églises étaient formées, ils entraient dans ces nouvelles églises. Et ils disaient « Oh, nous sommes de Jérusalem, Nous savons de quoi nous parlons et nous vous disons que vous ne pouvez pas simplement avoir Christ. Ce message de la justification par la foi seule, ceci est faux. Vous avez également besoin de la loi juive de l'Ancien Testament. Et ça a commencé avec ce mouvement-là. Et ils sont sortis des églises et ils ont attaqué de l'extérieur. Car de nombreux séducteurs, certains traduisent par séducteurs, trompeurs. Ce terme en grec vient du terme « ceux qui errent ». Certains pensent que ceci a à voir avec des prédicateurs itinérants qui essaient de corrompre les églises où ils le peuvent, ou des gens qui essaient de vous faire errer. Vous pouvez voir pourquoi l'apôtre Jean commence cette épître avec ce terme « marcher dans la vérité ». Marcher, marcher, c'est la caractéristique, l'activité caractéristique de ces temps-là. Si vous pouviez avoir suffisamment d'argent pour un cheval ou pour un chameau, pour votre voyage, mais la plupart des gens marchaient. Quelle image merveilleuse! Marcher, c'est quelque chose de régulier. Dans ces jours-là, vous marchiez des kilomètres et des kilomètres, vous marchiez. Mais il fallait rester sur le chemin. Rester fidèlement sur le chemin, ne pas essayer de trouver des raccourcis, des chemins qui ne sont pas sûrs. Et vous deviez marcher, sinon vous n'arriviez jamais à votre but. Et humblement, sans dévier vers un endroit intéressant où vous ne pouviez pas passer un ou deux jours ici, quelques mois ici, dans un autre endroit que vous vouliez visiter. Non, sinon vous n'arriviez jamais à votre but. Quelle image merveilleuse, oh, c'est là une parenthèse, mais pour la vie chrétienne, quelle image que de marcher comme dans ces temps-là. Marcher directement, aller directement au ciel, chers amis, sans dévier, c'est là le chemin de la sainteté, un voyage tout droit, sans déviation, sans des plaisirs et des activités de loisirs qui sont inutiles, simplement pour vous-même. Mais restez sur le chemin, que personne ne vous fasse errer du chemin. Marchez, ceci a un but et c'est régulier et constant. C'est une image parfaite de la vie chrétienne dans toutes les générations. Au verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Si vous connaissez les choses spirituelles, ceci vous rappelle quelque chose. Entrer dans le monde, ceci parle d'une mission. Entrer dans le monde. Les faux enseignants ne viennent pas simplement d'ici et de là, ils sont envoyés, orchestrés par Satan. C'est là la stratégie de Satan. Quel indice ici de l'apôtre inspiré de l'exprimer ainsi dans ces termes-là qui nous parlent. Ils sont entrés dans le monde avec un but effrayant. Un but, c'est de détruire la vérité. Un but délibéré. Qui ne confesse point, qui ne croit pas, qui ne déclare pas que Jésus-Christ est venu en chair. Nous avons vu ceci auparavant dans les écrits de Jean, dans 1 Jean. Si vous voulez être superficiel et limité dans votre interprétation de la parole de Dieu, vous allez dire « Oh, ceci signifie qu'il ne croit pas dans l'incarnation. » Mais ceci signifie bien plus que cela. Ceci signifie bien plus. Je me souviens, il y a bien des années, en lisant les commentaires du docteur John Stott sur cette épître, plus tard dans l'épître, si quelqu'un n'amène pas cette doctrine, ne l'acceptez pas dans votre maison, s'il est un enseignant, ne l'écoutez pas, ne le reconnaissez pas. Et il dit dans ses commentaires, ceci s'applique bien sûr uniquement à ceux qui rejettent l'incarnation de Christ. Non, bien sûr que non, cet homme est dans l'erreur, c'est une grande erreur. En raisonnant ainsi, Dr. John Stott a mis en avant l'union des protestants avec les catholiques. Comment est-ce que nous pouvons promouvoir l'œcuménisme et travailler avec l'Église de Rome et être soumis au pape? Non, ceci c'est nier l'Évangile et les Écritures. que de vouloir accepter cette union œcuménique avec les catholiques et avec l'Église de Rome. Qu'est-ce qu'il veut dire là, dans 2 Jean ? Il dit que ceci, c'est simplement pour les gens qui nient l'incarnation. Non, c'est plus profond. Ceux qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, cela signifie que vous ne niez pas simplement l'incarnation en tant que fait, acte, mais tout ce que le Fils de Dieu pouvait faire comme étant le Fils de Dieu venu en chair. Par exemple, de dire que je crois dans l'incarnation de Jésus-Christ, mais je ne crois pas qu'il est mort à la croix du calvaire, d'une mort expiatoire pour mon péché. Alors vous niez qu'il est venu dans la chair. Vous ne pouvez pas dire « Oui, j'accepte l'incarnation, mais je n'accepte pas l'œuvre de Christ, qu'il est venu dans la chair pour accomplir. » Non, tout ceci va ensemble. Si vous croyez que Dieu est devenu incarné, ceci est extraordinaire, merveilleux. Pour faire quoi ? Pour sauver les hommes et les femmes, pour souffrir, pour mourir d'une mort expiatoire à notre place, à la croix du calvaire, pour offrir sa propre justice et pour payer le prix pour le ciel, pour ses propres enfants. Il a tout fait, vous ne pouvez pas simplement disséquer son œuvre, son accomplissement, parce que si vous niez son œuvre, alors vous niez son incarnation. Vous ne pouvez pas simplement accepter une partie de l'incarnation et rejeter son œuvre et sa mission. Ainsi, tous ceux qui rejettent la mort expiatoire de Christ comme étant le seul fondement pour le salut en nous confiant en lui seul, alors cette personne nie l'œuvre de Christ, ce qu'il est venu faire sur cette terre, dans sa chair. Ceci va ensemble, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Bien sûr, les premiers séducteurs incluaient les agnostiques, comme nous les appelons aujourd'hui, c'est un terme moderne. Ils pensaient que tout était mauvais et il y avait des chrétiens agnostiques, soi-disant. Mais ceci est impossible. Les agnostiques pensent que parce que tout est méchant et mal, Christ ne pouvait pas réellement avoir un corps humain. Dieu n'aurait pas laissé aller Christ dans la chair humaine parce qu'elle était trop mauvaise. C'était de la philosophie grecque, mais ils pensaient ceci. Ils pensaient que Christ était un fantôme et pas réellement chair. Et quand il a souffert, qu'il est mort à la croix du calvaire, il n'est pas réellement mort. Il n'est pas réellement venu en tant que Dieu, homme, pour prendre notre condamnation littéralement et mourir à notre place. Mais ainsi, certains des premiers hérétiques, ces agnostiques, soi-disant agnostiques, comme ils les appelaient dans ces jours-là, ils ne croyaient pas dans l'humanité de Christ et dans sa divinité. Et alors que le temps passait, l'hérésie a changé continuellement. Ceux qui ne croyaient pas dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui pensaient qu'il y avait simplement un Dieu qui apparaissait sous différentes formes à différents moments. Ceci a été rejeté. Et ensuite, d'autres pensées sont venues, qui pensaient que Christ est venu, mais qu'il n'était pas unique. Il n'était pas divin. Il n'était pas une personne unique et divine. Il y a encore cette philosophie de nos jours, les témoins de Jéhovah par exemple, et les unitaires. Ces idées ont été rejetées par l'Église primitive. Mais l'hérésie qui a fait le plus de destruction, de mal, est venue au 4e, 5e siècle en particulier, et c'est l'Église catholique, les premiers papes au début du 5e siècle, qui ont inventé toutes sortes de choses terribles. La domination d'un évêque, le pape de Rome, qui pensait que ceci revenait à Pierre, mais ceci est un non-sens terrible, une invention de l'Église catholique. Et le pape et le conseil de l'Église qui prononçaient des déclarations qui étaient la tradition de l'Église catholique et les doctrines qu'ils ont inventées, les opinions qu'ils ont inventées, étaient plus importantes que l'Écriture. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent que l'écriture et la tradition sont égales. Mais quand la tradition contredit l'écriture, la tradition prend le dessus dans l'Église catholique et l'écriture est mise de côté. Elle n'est rien. Dès qu'il y a un débat, c'est la tradition qui compte. Justification par la foi a disparu. Le salut, c'est par l'obéissance à l'Église uniquement pour les catholiques. Et le salut est donné par les prêtres et par les sacrements. Ceci est entièrement différent de l'écriture, du salut par la foi. Et l'Église catholique, à partir du 5e siècle jusqu'à l'année glorieuse 1517, avec le début de la réforme protestante. Là où les Écritures ont été affirmées à nouveau et déclarées. Et peu de temps après, le diable et les hérésies sont revenus. Au 19e siècle, comme je l'ai mentionné, à la fin des années 1800, avec les Écritures qui ont été critiquées, etc. Le temps est passé et je ne peux pas finir ce chapitre car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne veulent pas accepter que Christ est venu en chair et tout ce qu'il a accompli dans sa chair. Un tel homme est le séducteur et l'antichrist. Au verset 8, prenez garde à vous, défendez la vérité, soyez bien sûrs que ces choses sont enseignées, que les enfants de Dieu sont avertis de ne pas écouter les faux enseignants et les hérésies pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais que nous en recevions une pleine récompense. Beaucoup de gens pensent que ceci parle de votre récompense au ciel. Je ne pense pas que c'est le cas, mais je ne peux pas en être sûr ou le prouver. Mais je pense que ceci parle plus de votre récompense même sur cette terre. De penser que l'apôtre Jean et les prédicateurs de ce temps-là puissent voir ces hérésies faire errer tant de personnes dans ces églises qu'ils ont fondées, dans ces régions où ils ont démarré des églises, l'hérésie qui prend le dessus. Mais leur récompense, c'est de voir Christ qui est exalté, glorifié, honoré. Nous ne voulons pas perdre tout ce que nous avons construit. Et quand nous en arrivons au ciel, nous voulons avoir la joie de rencontrer beaucoup de gens là qui entrent même après vous et qui sont venus à Christ par votre église, par votre classe d'école du dimanche. Et ceci s'applique également dans ce verset à la récompense, à la satisfaction des chrétiens qui œuvrent pour le Seigneur sur cette terre. Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, ce que nous avons fait, mais que nous en recevions une pleine récompense, même dans notre travail sur cette terre. Je ne suis pas sûre que ceci parle de la récompense céleste. Il se peut que tous les chrétiens ont au ciel la même récompense. Au verset 9, et j'en arrive à la conclusion, quiconque est transgresseur. En grec, c'est quiconque marche de côté ou prend un autre chemin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, son incarnation et tout ce qu'il a accompli n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il est le vrai croyant, le croyant authentique. Verset 10, si quelqu'un vient à vous, d'âme élue, et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point. S'il n'a pas cette doctrine, ceci ne parle pas nécessairement d'un frère, d'une sœur qui est incroyant, que vous essayez de gagner à Christ. Parce que certains ont pris ce verset trop littéralement et qui ne laissent entrer personne dans leur maison qui n'est pas croyant. Ou quelque chose qui n'est pas enseigné dans votre église en particulier, ne le laissez pas entrer. Non, ce n'est pas ce que ce verset dit. Peut-être ce n'est pas quelqu'un qui enseigne, mais quelqu'un qui veut influencer d'autres personnes de la mauvaise manière, par une hérésie. Dans cette circonstance, s'il n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point, ne l'accueillez point, ne le reconnaissez pas comme étant un chrétien ou un enseignant, et ne le saluez point. C'est une expression qui, en grec, dit « ne lui souhaitez pas le bonheur, ne l'encouragez point, ne le soutenez point, ne l'aidez point. Au verset 11, car celui qui le salue, celui qui le rend heureux, l'encourage, participe à ses mauvaises œuvres. Même des chrétiens qui coopèrent avec des gens qui n'enseignent pas la vérité. Les chrétiens qui restent dans ces dénominations qui ont mis depuis longtemps la vérité de côté, ils leur donnent encore leur soutien financier et ils encouragent ces mauvaises œuvres. Et l'Écriture est claire, ils participent à ces mauvaises œuvres. Et ensuite, il finit cet épître d'une manière merveilleuse. Mais nous n'avons pas le temps d'explorer ces versets. Verset 12, « Quoique j'ai plusieurs choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler face à face. » C'est une traduction un peu délicate en grec, c'est « parler bouche à bouche ». Échanger une conversation, parler beaucoup afin que notre joie soit parfaite. Et j'en reviens à mon illustration du départ, que les chrétiens s'aiment l'un l'autre dans le Seigneur, qu'ils parlent beaucoup l'un à l'autre de choses bonnes, saines, de choses spirituelles, de choses merveilleuses. Et l'apôtre Jean finit de la même manière qu'il commence, de parler face à face afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Probablement cette sœur est à Éphèse. Et notre sujet était protéger, garder la vérité. Que le Seigneur nous aide et que cette épître, deuxième épître de Jean très courte, nous aide en cela.